Nous vous invitons tout de suite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Toumba Kamanga.
Bonsoir. Où en est-on avec les groupes armés de l'Est du pays, en l'occurrence ceux du Nord Kivu? C'est là notre thème de ce dialogue entre Congolais. Quelle réaction à l'appel à déposer les armes lancé par le Conseil de sécurité des Nations Unies? Et quel bilan aujourd'hui du mixage au Nord Kivu? Pour répondre à ces questions, Dialogue entre Congolais reçoit André Claudel Loubaya, député national PPRD et président de la sous-commission Forces armées à l'Assemblée nationale, le sénateur RCD Moïse Nyarugabo, Gilbert Kalinga, député provincial PPRD, élu de Walikale dans le Nord Kivu. Nos invités réagiront aussi aux questions et opinions des auditeurs. En voici quelques-unes. François Makiambe de Bukavu, au Sud Kivu, pense que l'ONU ne doit pas se limiter aux déclarations d'intention. Elle doit aussi doter la MONUC des moyens nécessaires pour faire face aux milices. Pascal de Rutshuru dans le Nord Kivu estime que le mixage est un faux mixage et son bilan est négatif car il comprend deux groupes de militaires ne mettant pas sur la même longueur d'onde. Et depuis Kikwit au Bandundu, Serge demande quelle action concrète mène l'actuel gouvernement en ce qui concerne l'insécurité à l'est du pays. Nous y reviendrons au cours de cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies exige que les groupes armés présents dans l'est de la RDC déposent les armes. Dans une déclaration lue lundi dernier à New York par son président en exercice, l'ambassadeur chinois Wang Guangjia, les 15 membres du Conseil expriment leur profonde préoccupation face à la détérioration de la situation dans cette région est du pays. Le porte-parole de la MONUC, Kemal Saiki, est revenu sur cette déclaration ce mercredi devant la presse. C'était lors de la conférence hebdomadaire de la MONUC, Kemal Saiki, dans ses propos recueillis par Adia Kipoko.
Le secrétaire général des Nations Unies appelle les partenaires régionaux et internationaux à soutenir les efforts visant à atténuer les tensions dans la région. M. Ban Ki-moon encourage par ailleurs les gouvernements du Burundi, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda à coopérer pleinement pour résoudre les causes qui sont à l'origine de l'instabilité dans l'est de la RDC et dans la région dans son ensemble. Le lundi 23 juillet 2007, le président du Conseil de sécurité des Nations Unies a également exprimé à son tour sa vive préoccupation devant la situation sécuritaire qui continue de se détériorer dans l'est de la RDC, en particulier dans le nord et le sud Kivu. Le Conseil de sécurité des Nations Unies exhorte toutes les parties en présence à s'abstenir de toute action conduisant à une confrontation militaire qui risquerait d'attiser davantage les tensions et d'aggraver la crise humanitaire dans les Kivu et à rechercher une solution politique et diplomatique à la crise actuelle. Par ailleurs, le Conseil de sécurité invite le gouvernement à mettre au point, en collaboration étroite avec la mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC, la MONUC, un plan global pour garantir la sécurité dans l'est du pays, notamment en accomplissant de nouveaux progrès dans le désarmement, la démobilisation et la réintégration des combattants congolais, et le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réintégration des combattants étrangers, ainsi qu'en mettant fin à l'impunité, en promouvant la réconciliation, la cohésion sociale, le relèvement et le développement dans la région.
C'était Kemal Saiki, porte-parole de la MONUC. Claudel Loubaya, vous êtes député national PPRD, vous êtes aussi président de la sous-commission Forces armées dans cette institution, donc à l'Assemblée nationale. Comment vous réagissez à cet appel du Conseil de sécurité des Nations Unies?
Merci. Je crois que l'appel du Conseil de sécurité n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Et cet appel n'est pas venu trouver une porte fermée. Il est plutôt venu croiser un processus déjà en cours, amorcé par le gouvernement depuis quelque temps. Bien entendu, c'est un processus qui s'installe un peu, mais qui vise à court terme la résolution globale des problèmes d'insécurité dans l'est du pays et particulièrement dans les provinces du nord et du sud du Kivu. Nous nous réjouissons que le Conseil de sécurité, dans sa déclaration, ait encore une fois rappelé au gouvernement et bien entendu à toute la communauté nationale les préoccupations qui sont celles de la population de l'Est et celles bien sûr aussi de l'Assemblée nationale, mais en même temps qu'il ait relevé et encouragé le gouvernement dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre à présent pour arriver à résoudre ce problème de l'Est.
Alors, Moïse Narugabo, vous êtes sénateur RCD, comment vous réagissez aussi à ce même appel?
Je note que le Conseil de sécurité, c'est avec raison qu'il s'inquiète de ce qui se passe au nord, au sud Kivu et peut-être dans les autres parties de la République où il y a des troubles. Mais particulièrement, je note que le Conseil de sécurité, dans son troisième paragraphe, exhorte toutes les parties en présence à s'abstenir de toute action conduisant à une confrontation militaire qui risquerait d'attiser davantage les tensions et d'aggraver la crise humanitaire dans les Kivu et à rechercher une solution politique et diplomatique à la crise actuelle. Mais dans les nouvelles que moi j'ai, c'est que depuis plus d'une semaine, le gouvernement a lancé des offensives dans le sud Kivu. Il y a des combats, il y a des villages qui sont incendiés, il y a des villages qui sont vidés, les populations sont dans les brousses. Pendant cette saison sèche dans les montagnes, il fait très froid. Donc, je crois que, effectivement, de part et d'autre, le message du Conseil de sécurité tombe à point nommé.
Est-ce que vous êtes aussi de cet avis, Gilbert Kalinda? Vous êtes député provincial PPRD, élu de Walikale dans le Nord Kivu, vous êtes à Goma. Est-ce que vous êtes aussi de même avis que Moïse Nyangabo, le sénateur Moïse Nyangabo, que le message du Conseil de sécurité des Nations Unies tombe à pic?
Oui, effectivement, je remercie de cette opportunité. Je dois affirmer que nous saluons pour ce qui nous concerne avec une note particulière le point de vue ou la position du Conseil de sécurité. Il reste vrai que nous qui sommes sur le terrain, nous qui sommes les victimes quotidiennes de tout ce qu'il y a comme trouble ou tendance de violer en fait la paix et la sécurité ici chez nous. Et nous pensons que cette manière de prendre position par le Conseil de sécurité devrait recevoir une certaine adhésion de la part de toutes les parties, tant celles qui veulent la paix et qui sont effectivement sur le chemin de la paix, que celles qui troublent la paix et qui sont invitées également à prendre le chemin de la paix.
Voilà. Claudel Loubaya, mais quand on suit justement ce message du Conseil des Nations Unies, on a quand même l'impression que le gouvernement devrait être le plus interpellé.
Le gouvernement, parce qu'il conduit la politique de la nation, il est interpellé, c'est vrai, mais en même temps qu'ils sont interpellés, toutes les forces négatives qui continuent également à entretenir l'insécurité à l'Est. Ça, c'est un. De deux, je pense que le gouvernement, en ce qui nous concerne, n'est pas interpellé comme s'il était rappelé à l'ordre. Non, le gouvernement est déjà dans un processus et lorsque nous parcourons l'actualité de ces dernières 72 heures, on voit justement que le gouvernement est en train de s'efforcer pour pouvoir réduire les différents groupes qui attisent l'insécurité à l'Est. Il est par exemple ici question de rappeler cette affaire de Laurent Kunda et consorts et ses troupes. Je crois que la position du gouvernement à ce sujet est claire, elle a beaucoup évolué et nous pensons que la résolution de tous les problèmes doit passer également aussi par l'intégration, le passage des troupes de Laurent Kunda et bien sûr d'autres troupes, tout comme aussi les forces rwandaises, notamment les FDLR, devraient être rappelées au Rwanda.
On va justement aborder ce sujet dans la dernière partie, mais quand on voit par exemple ce qui se passe au sud Kivu, c'est quand même le gouvernement qui a lancé l'offensive.
C'est le gouvernement qui est responsable de la sécurité des personnes et de leurs biens, et cette offensive du gouvernement n'est pas dirigée contre la population du nord ou du sud Kivu ou la population de l'Est. L'offensive du gouvernement, c'est des actes, c'est tout à fait normal, et c'est dirigé contre le groupe qui attise l'insécurité à l'Est. Parce que ce groupe, bien entendu, il refusait, ce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs, qui ont refusé de se faire brasser. Il y en a qui résistent jusqu'à ces jours, et c'est tout à fait normal que le gouvernement le poursuive. Je vois que le Conseil de sécurité demande à toutes les parties de s'abstenir de tout acte. Mais qu'est-ce que vous voulez si le gouvernement ne peut pas arriver lui-même à prendre ses responsabilités? A-t-il besoin que le Conseil de sécurité ne le fasse?
Oui. Moïse Nargabo, vous venez de suivre Claudel Loubaya, le député national, qui dit que c'est une action tout à fait normale, d'après lui, de la part du gouvernement.
Je pense que ce n'est pas vrai. Un, le gouvernement ne peut pas démontrer qu'il a exploité toutes les voies pacifiques et qu'il les a épuisées. Deux, prenons le cas du Sud Kivu seulement. Du rapport du ministre de la Défense, il y a plus ou moins 14 000 militaires non intégrés. Mais là où il se passe les combats aujourd'hui dans le haut plateau, au sud Kivu, c'est là où il y a le groupe de Bisogo et de Makanika qui compte entre 250 et 300 personnes. Alors, mais ce qui est plus blessant et ce qui ne peut pas être expliqué, c'est que le gouvernement utilise les groupes armés non intégrés, non brassés, même ceux qui ont refusé ouvertement le brassage, même ceux qui ont été démobilisés, même les déserteurs. On les a fait ramasser par des camions, les Maï Maï et d'autres groupes. On leur a donné des tenues militaires et des armes, on leur a demandé de monter à les montagnes. Finalement, le problème, c'est quoi? Pour désarmer et neutraliser des personnes qui ont refusé le brassage, on utilise des groupes armés non brassés, non intégrés, qui ont refusé le brassage. Là, on ne comprend pas. Et le deuxième élément, c'est que ces groupes armés, arrivés dans les montagnes, ils s'attaquent à la population. Les villages sont incendiés. Kajoka, Kanono, Bikinga, Nyakidegu sont incendiés. Vous pouvez vérifier. D'autres villages ne sont pas incendiés, mais les populations ont fui. Kamombo, Murambia, Mitamba, Kageregeri, Majaga, tout ça sont des villages qui sont vidés de leur population à cause des exactions, des viols et tout et tout. Les vaches, n'en parlons pas. Ils disent qu'ils ont le droit de prendre les vaches, de piller, de les bouffer, de les tuer. Ils les amènent jusqu'à Uvira et sont vendus à Uvira. Le commandant des régions adjoint Nakabaka est témoin. Aujourd'hui, il a récupéré 21 vaches qu'il a remises à certains membres de la communauté qui sont à Uvira pour qu'ils les ramènent dans les montagnes. Mais des centaines de vaches sont conduites à Uvira, dans la plaine de la Ruzizi et à Kashongo, qui est une base de Maï Maï dans les hauts plateaux. Donc, même ces militaires brassés, même ces militaires dits loyalistes, même ces groupes armés non brassés mais qui sont utilisés par le gouvernement, même ceux qui ne sont pas comptabilisés, qui étaient dans les montagnes, sont en train de travailler pour le compte du gouvernement, ils s'attaquent à la population et ils pillent, ils violent. Je pense que le gouvernement devait nous démontrer qu'il a tout fait. Il a essayé avec toutes les voies pacifiques, il n'a pas pu trouver de solution. Surtout que, seul, en tout cas dans les montagnes, je ne suis pas leur avocat, mais je n'ai pas de preuves qu'ils s'opposaient ni au gouvernement, ni à la population. Ils avaient des préoccupations par rapport au brassage, mais ils étaient en pourparlers avec la région militaire.
Donc, si on vous a compris, sénateur Moïse Nargabo, c'est que cette offensive du gouvernement n'était pas opportune.
Absolument pas. Elle n'était pas opportune parce que, effectivement, des militaires qui appartiennent au FARDC, qui étaient en rapport, en contact avec la région militaire, qui étaient en discussion. Souvenez-vous, messieurs, ce sont les militaires qui étaient en contact avec le général John Numbi, le général Tango Kwa. On leur avait demandé de descendre dans la plaine de la Ruzizi au niveau de Rumingu pour qu'ils puissent discuter avec les responsables. Ils sont venus, mais arrivés là, ils n'ont pas été rencontrés par le responsable de l'armée. Ils sont remontés parce qu'ils étaient menacés, ils semblent d'être attaqués. Donc, les pourparlers existaient. Le dialogue était là.
Merci,
C'est l'offensive qui a coupé ce dialogue.
Merci, sénateur Nargabo. On va à Goma retrouver Gilbert Kalinda, député provincial PPRD. Est-ce que vous partagez l'avis du sénateur Nargabo?
Bon, évidemment, ce qu'il faut noter, c'est que les affirmations du sénateur Nargabo, pour autant qu'elles peuvent se vérifier, amènerait quand même un certain nombre de positions de compassion envers un peuple qui serait ainsi maltraité. Mais il faut également retenir, en rapport avec ce qu'a dit tantôt le député André-Claude Mbaya, que c'est de la mission du gouvernement de sécuriser et de pacifier l'ensemble du territoire. Le gouvernement ne doit pas attendre que ce soit la communauté internationale qui demande tout cela pour agir. Donc, dans son action, pour autant que c'est entouré de toutes les précautions d'utiliser une armée régulière, ce que je crois, parce que ce que dit l'honorable le sénateur Nyarugabo, je me dis qu'il faut faire un effort de vérification, mais si effectivement des militaires loyaux qui sont utilisés pour essayer de pacifier le peuple de tous les villages qui ont été cités, il s'agit là d'une mission noble. Mais si effectivement ce n'est pas pour pacifier, je crois que l'éthique politique commande effectivement à condamner ce genre de comportement, si le comportement se passe tel que je décris le sénateur Nyarugabo.
Où en est-on avec les groupes armés? C'est le thème de ce dialogue entre Congolais qui reçoit le sénateur RCD Moïse Nyarugabo, Claudel Lubaya, député national PPRD et président de la sous-commission Forces armées à l'Assemblée nationale, Gilbert Kalinda, député provincial PPRD, élu de Walikale dans le Nord Kivu. A tout de suite pour le second et dernier volet de cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8999-222.
En Nord Kivu, plus de 170 militaires mixés et non mixés ont quitté Goma vendredi dernier pour le centre de brassage de Kamina au Katanga. Ces militaires ont fait défection dans leurs troupes respectives. C'est depuis un mois qu'ils arrivent en petit groupe à la MONUC ou au bureau de renseignement militaire T2 à Goma. Selon le coordonnateur de la structure militaire d'intégration SMI à Kamina, ces militaires vont former la 18e brigade intégrée. Détail avec Gisèle Tage.
C'est dans cette ambiance que ces militaires ont quitté leur site de regroupement dans le quartier Keshiro à bord de camions pour l'aéroport de Goma. Ils sont au total à 178 de Goma. Ils devraient rejoindre le centre de brassage de Kamina à bord de deux avions apprêtés par l'état-major général des FARDC. 91 parmi eux sont venus de brigades mixées Alpha, Delta, Echo et Charlie, déployées dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. 42 sont venus de Tongo et Ngungu, où ils attendaient le mixage de la brigade Foxtrot. 4 autres militaires sont venus de la brigade Baleine de Maïmaï, basée au bord du lac Édouard. Le reste faisait partie de la garde de l'ancien gouverneur du Nord Kivu. Les militaires mixés ont quitté leurs unités il y a environ un mois. Selon eux, ils préfèrent suivre le processus normal d'intégration de l'armée.
Je me suis rendu compte que être mixé ne signifie pas être en fait de paresse. L'État a instauré les brassages pour que tous les militaires soient connus. Nous étions plus en étage dans les unités mixées. Certains de nos camarades ne savent pas qu'on va sortir de là. Il n'y a pas moyen de gagner et d'aller au brassage. Notre seule chance pour arriver à ici, c'est d'atteindre d'abord la MONUC. Nous sommes fatigués de vivre depuis des années dans les bâtiments.
Nous, nous avons quitté Bukavu et nous avons été par la suite mixés. Mais les soldes qui nous restaient à Bukavu n'étaient plus les mêmes. Ça a complètement diminué. Il y a aussi la ration des militaires. Je ne sais pas où. Ils achètent des armes parce qu'ils nous demandent des combats. Nous trouvons que nous sommes fatigués par les guerres. C'est pourquoi nous voulons travailler pour le gouvernement parce que nous nous affrontons toujours entre nous. Selon le coordonnateur national de la structure militaire d'intégration, le colonel Chilungo Toko, il n'y a jusque-là aucune réticence chez des militaires mixés pour aller au brassage. Selon lui, il est prévu que toutes les brigades mixées suivent le processus d'intégration une fois que le gouvernement aura réuni le moyen.
Les brigades mixées ne sont pas dans le processus. Ce sont des brigades des forces armées de la République française du Congo. Mais nous sommes en train de voir s'il y a de la place. Nous envoyons quelques militaires dans le centre de brassage. Nous prenons par groupe petit à petit et nous les encadrons. Dès que nous formons une brigade, nous les remplaçons, nous prenons les autres, nous les envoyons au centre de brassage.
Selon le même responsable, à Kamina, ces militaires vont former la 18e brigade intégrée. Gisèle Cage, Goma, pour Dialogue entre Congolais.
Merci Gisèle Cage. Nous retournons justement à Goma où nous retrouvons Gilbert Kalinda, député provincial PPRD. Gilbert Kalinda, quelle lecture vous faites, vous, de ce groupe 170 éléments qui décident en fait de déserter les camps des troupes mixées?
En fait, ce qu'il faut noter, c'est que L'opération de mixage a été effectivement menée dans un contexte de mythe que les militaires ne voulaient pas tellement en parler avec les politiciens. C'est une question qui les concernait, je compris, bien entendu. D'après ce que nous avons appris, c'est que le processus de mixage était un chemin vers le brassage. Formellement, si je vois qu'il y a déjà un groupe de 160 qui prend l'initiative d'aller vers le processus de brassage, il y a là une continuation normale et effectivement une invitation à tous les autres d'essayer de suivre ce chemin-là, parce qu'il nous semble qu'après les termes des accords entre militaires pour le processus de mixage, c'était là un chemin qui devait conduire au brassage. Je pense cependant qu'il est important d'essayer de revoir les points de vue des uns et des autres pour savoir exactement comment cela va se faire. Mais si déjà il y a 160 qui prennent l'initiative, j'invite les autres à faire autant. Et ceux qui pourraient résister, il est intéressant d'échanger, de discuter avec eux, de façon à les amener au même chemin de brassage. Si le chemin de brassage s'avènera militairement être le meilleur chemin pour l'unification et l'intégration de l'armée.
Oui, mais quel bilan ? Quel bilan, Gilbert Kalinda ? Quel bilan vous pouvez établir, vous, du mixage ?
Bon, en fait, s'il faut parler en termes de bilan, il y a quelques faits qu'on peut considérer comme positifs et d'autres, bien entendu, qu'il faut ranger dans la catégorie du négatif. Ce qui est positif, c'est qu'on constate à partir du processus de mixage que ceux qui se battaient hier ont cessé de se battre formellement. Ça, c'est important. Mais du point de vue négatif, on constate qu'il y a des résistances au niveau des populations, ce qui entraîne parfois des réactions qui sont à la limite graves et dangereuses par rapport aux droits humains et aux libertés individuelles. Donc on se rend compte que le peuple s'est fait du mixage une idée un peu des groupes qui sont appelés à brimer les gens. Et quand on s'est fait cette opinion, d'office, on doit avoir des considérations négatives. Mais nous pensons qu'il est important de ne pas se limiter aux considérations négatives ou positives actuelles, mais qu'il faut plutôt avoir les perspectives d'avenir et penser que, à tout bien considérer, les uns et les autres peuvent se conduire vers le chemin de la paix, vers le chemin de l'intégration et de l'unification de l'armée.
Merci.
Tel doit être en principe l'objectif de tout le monde, et tel devait également être le sens des discours de tous les responsables politiques.
Merci.
Inviter les gens vers le respect de la suite du mixage vers le brassage. Parce que tant qu'on reste, on fait un pas pour dire que le mixage est une mauvaise opération, pour dire que c'est telle opération qui est la meilleure, on froisse un certain nombre de personnes et peut-être que on diminue l'élan que certains peuvent avoir à avancer. Il est important de noter qu'il faut contraindre tout le monde d'avancer vers l'intégration, vers l'unification. Faire un regard trop stable sur un passé qui n'est pas très intéressant, je pense, il peut ne pas être un gage pour créer un avenir de cohésion.
Ouais,
voilà en fait le point de vue que je vous donne là.
Ouais, merci. Et vous, Claudel Loubaya, quel est votre bilan du message ?
Nous réjouissons d'abord au niveau de l'Assemblée nationale que le gouvernement ait évolué dans sa politique en ce qui concerne la sécurisation de l'Est d'une part, mais d'autre part aussi en ce qui concerne même toute sa politique de défense.
Le gouvernement a évolué comment ?
Nous nous réjouissons que le gouvernement ait évolué dans toute sa politique de défense nationale, dans la mesure où il a renoncé progressivement au mixage pour aller vers le brassage. Je crois que le mixage au départ, c'était une opération opportune au moment où cela a été organisé. Il y avait des combats auxquels il fallait mettre fin. C'était vrai, c'était adapté à cette période-là. Mais avec l'évolution de la situation sur le terrain, il devenait impératif que le gouvernement puisse plutôt privilégier la voie du brassage. Dans la mesure où le brassage permet justement de réintégrer toutes ses forces et de créer alors réellement une armée réellement unifiée, nationale et républicaine. Mais ça, nous pouvons noter évidemment que la société de la contestation, notamment de la part des populations locales là-bas à l'Est, qui n'ont pas accepté que des troupes faisant partie de groupes de Laurent Kunda, puisqu'il était jusqu'hier accusé d'entretenir l'insécurité, soit intégré dans l'armée nationale, mais en fait même pas intégré, mais mixé, c'est-à-dire placé à isolé et formant pratiquement une armée dans l'armée et ne dépendant pas directement de l'état-major général de l'armée congolaise. Donc nous pensons au niveau de l'Assemblée nationale que des processus de mixage ayant permis maintenant que quelques éléments commencent à se détacher pour aller se faire brasser, c'est déjà un pas, c'est déjà un progrès, comme l'a dit l'honorable Kalinda Patrice de Goma là-bas. Ce qui est plus important maintenant, c'est l'avenir qui compte, et nous pensons qu'en ce qui concerne l'avenir, nous allons encourager le gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons encourager le gouvernement à faire davantage d'efforts pour achever le processus de brassage et donner à la nation congolaise une armée réellement républicaine. Ça, c'est d'or. Mais ce qu'il faudra aussi dire, c'est que même s'il y a eu mixage il y a quelque temps et que maintenant le brassage est en cours, il y a cette nécessité d'intégrer la situation de l'Est dans un paquet global, dans une approche globale de tous les problèmes d'insécurité au sein de notre pays. Parce que penser résoudre le problème de Nimembe, le problème du Sud Kivu, le problème de Mbororo là-bas en province orientale, sans penser à une stratégie de sécurité nationale de notre pays, je crois que cela ne va pas marcher. Et c'est dans cette optique qu'au niveau de l'Assemblée nationale, et particulièrement au niveau de la Commission de défense et sécurité, nous sommes en train de travailler pour que d'ici à la rentrée prochaine, nous puissions, avec le gouvernement bien entendu, participer à la table ronde qui est prévue au mois d'octobre, justement sur le processus de réforme du secteur de la sécurité.
Oui, mais honorable Claudel Loubaya, vous vous réjouissez, comme vous dites, de l'action du gouvernement, notamment l'intégration dans le processus de brassage des éléments déserteurs, disons des éléments mixés, mais il s'agit jusque-là des éléments déserteurs, c'est pas des éléments que le gouvernement et vous avez convaincus à la région de brassage.
Le problème n'est pas de savoir si c'est les éléments déserteurs ou les éléments non repérés par le gouvernement. Nous nous réjouissons, nous, que le gouvernement ait d'abord compris qu'il faut brasser tout le monde et qu'il ne faut pas mixer les uns et brasser les autres. Oui. Nous, c'est d'abord à ce stade-là, nous sommes d'accord avec le gouvernement. Ça, c'est de un. De deux, nous sommes d'accord avec le gouvernement pour l'encourager justement dans cette démarche parce que nous estimons que même les troupes qui avaient déserté hier, il faut les reprendre parce que c'est elles qui entretiennent la sécurité. Mais il ne faut pas simplement brasser ces troupes, il faut choisir dans ces troupes celles qui ne sont pas congolaises, parce qu'il faut le connaître. Parmi ces troupes de Laurent Kunda, ces troupes mixées, il y a des éléments d'extérieur. Ceux-là devront être rapatriés au Rwanda. C'est ça, c'est tout cela que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous encourageons le gouvernement à aller jusqu'au bout de sa logique, mais en veillant surtout à ce que l'armée de demain ne puisse pas garder l'état de ce que nous condamnons aujourd'hui.
Merci. Pour vous, sénateur Moïse Niangabo, quel est votre bilan que vous faites, vous, du mixage?
J'ai quatre éléments à partager avec vous sur la question. Le premier élément, c'est que aujourd'hui, je suis aussi plus ou moins satisfait, pas encore totalement, parce qu'on commence à réaliser que et au Nord Kivu, et au Sud Kivu, le problème n'est pas que Laurent Kunda, n'est pas que Bisogo et Makanika. La preuve, juste en passant, au Sud Kivu, il y a un colonel Kalala Ruharara, le colonel Kayamba, le colonel Zabuloni, le major Kapopo, le capitaine Yakutumba, le colonel Ngufu, le colonel Mayele, le major Abdou, tous cela sont des seigneurs de guerre avec des troupes par milliers, non encore intégrées, non brassées. Mais on n'en parle pas. C'est comme si le seul problème au sud Kivu, c'est Bissogo et Makanika qui totalisent les deux entre 250 et 300 personnes. Donc là, vraiment, on est en train de taper à côté. Au nord Kivu, on a toujours parlé rien que de Laurent Kunda. Mais on ne vous a jamais dit qu'il y a le colonel Kirikito, qu'il y a le colonel Blaise, qu'il y a le colonel Kakule, La Fontaine, qu'il y a le colonel Mugabo, qu'il y a le colonel Tatibanga, qu'il y a le colonel général Kakolele, qu'il y a le colonel Jackson. Tout cela sont des seigneurs de guerre avec des troupes, certains avec même des mouvements politico-militaires. Personne n'en parle. Voilà ce qui m'inquiète. Mais aujourd'hui, il y en a qui commencent à réaliser que même les 170 personnes qui ont accepté d'aller au brassage ne sont pas toutes venues de chez Laurent Kunda. Il y en a qui sont venues des autres groupes. Donc, il faut envisager une solution globale pour l'intégration de l'armée à ce niveau-là. Mais deuxième élément, le brassage. Moi, je suis totalement d'accord avec le brassage. Le brassage se trouve dans les accords. Nous avons convenu qu'il y aura brassage comme procédé pour intégrer l'armée, pour avoir une nouvelle armée qui viendrait des différentes composantes et entités, des différentes factions ou factions armées. Mais pour moi, je considère que tenir compte des réalités locales, ce n'est pas une faute de la part du gouvernement. On ne peut pas simplement, les yeux fermés, faire des choses alors qu'il y a des réalités dont on doit tenir compte. Lorsqu'il y a un obstacle pour une personne censée, au lieu d'affronter l'obstacle, on peut le contourner. Il y a des obstacles qu'on peut contourner au lieu de les affronter pour ne pas avoir mal.
Vous pensez à quoi, excusez-moi, sénateur Moïse, quand on parle des réalités locales?
Exactement, c'est le troisième élément. C'est le mixage. Je n'ai jamais été d'accord avec l'Assemblée nationale qui considère que le gouvernement avait commis une faute en procédant au mixage. Le mixage, c'est quoi? Allez voir le dictionnaire. Mixage, brassage. En négociation, on a utilisé le mot brassage. Mais on aurait pu utiliser le mot mixage. On aurait pu utiliser tout autre concept. Ça veut dire qu'est-ce que nous voulons atteindre comme résultat? C'est mettre ensemble les militaires qui se battaient hier pour qu'ils puissent travailler ensemble. Créer des conditions de confiance entre les différentes unités et pouvoir servir ensemble sous le drapeau. C'est ça, le brassage, c'est ça, l'intégration de l'armée. Et je ne pense pas que ce soit les 15 jours ou les 40 jours ou les 45 jours qui constitue la formation que ces militaires vont avoir pour défendre le pays. Ceux qui sont mal formés resteront mal formés malgré les 45 jours. Donc, quand on parle de mixage, tout part de l'accord. On a toujours parlé d'un certain accord entre le gouvernement et Laurent Kunda. C'est devenu un tabou. Mais si cet accord existe, on doit partir de là. Quel était le contenu? Que l'accord soit écrit ou verbal. Mais si on s'est mis d'accord sur le mixage, et moi je crois que l'accord a existé, parce que sinon, comment on pouvait voir le général John Numbi et le général, ou ce que les autres appellent ex-général Laurent Kunda, peuvent se retrouver ensemble dans une cérémonie télévisée, tous en tenue militaire, avec des galons, en train de présider une cérémonie, où deux brigades, ou trois, quatre bataillons se mettent ensemble, sans qu'il y ait eu un accord? Ça pouvait procéder de quoi? Donc je considère qu'il y a eu un accord. Cet accord devait être exécuté dans son entièreté. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui résistent à l'accord qu'on doit le dénoncer si l'accord a existé. Et je considère, messieurs, que le gouvernement avait commencé à réussir. Lorsque les militaires qui se battaient à Goma, à l'entrée de Goma, pendant, disons, janvier, ils se battaient, lorsqu'ils se sont retrouvés ensemble, ils ont commencé à manger ensemble, ils ont fait des opérations contre les FDLR ensemble, ils les ont chassés de certaines localités. Il suffisait de continuer sur cette lancée et de créer des conditions de confiance, déjà au niveau des responsables, au niveau des troupes, et plus tard, la suite viendrait automatiquement. Mais lorsqu'on dénonce, lorsqu'on accuse, lorsqu'on dit que ceux-ci sont des mauvais, ceux-ci sont des criminels, la suite, c'est que chacun, comme tout instinct naturel, c'est la survie, c'est l'autodéfense. Et ça bloque. Moi, je considère que le mixage était déjà une réussite, à mon avis. il fallait que le gouvernement continue sur cette lancée. Mais le gouvernement n'a pas assumé. De la même manière qu'aujourd'hui, le gouvernement n'assume pas son initiative d'organiser la table ronde. On nous avait dit qu'on va avoir la table ronde 10 jours après que la délégation du gouvernement revienne de l'Est. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 2 mois ou à 3 mois, je ne sais pas, on n'en parle même plus, parce que certaines personnes, que moi je considère comme des extrémistes, s'opposent à la table ronde, disent qu'il ne faut pas l'organiser. Si le gouvernement continue à reculer devant les extrémistes, eh bien nous allons être dirigés par la rue, ce n'est pas acceptable. La dernière chose, c'est la question des FDLR. Aujourd'hui, ce que Gilbert ne nous dit pas, c'est que certains territoires du Nord Kivu, autour, certains groupements sont occupés complètement par les FDLR. Et beaucoup de personnes qui sont déplacées aujourd'hui, c'est parce que les FDLR occupent ces territoires. Pourquoi les FDLR ont occupé ces territoires? C'est lorsque le gouvernement a dénoncé le mixage. Les militaires qui commençaient à faire les opérations ensemble ont arrêté. Donc je pense qu'il faut que le gouvernement prennent des dispositions et prennent une décision claire sur la question des FDLR. Sinon, nous continuons à naviguer à vue.
Merci. Je rappelle le thème de ce dialogue entre Congolais. Où allait-on avec les groupes armés à l'est du pays, et en l'occurrence au Nord Kivu? Quelle réaction à l'appel de déposer les armes leur lancé par le Conseil de sécurité des Nations Unies lundi dernier? Et en cette dernière partie en cours, quel bilan du mixage au Nord Kivu? Claudel Loubaya, député national PPRD, Moïse Nyarugabo, sénateur RCD, et Gilbert Kalinda, député provincial PPRD, élu de Walikale. Voilà nos invités. Nous retournons d'abord à Goma avant de prendre les opinions des auditeurs. Gilbert Kalinda, vous avez suivi le sénateur Moïse Nyarugabo. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quant à la réussite du mixage?
Bon, je pense que par rapport à ce que vient de dire le sénateur Moïse Nyarugabo, dans la dernière partie de son intervention, il y a lieu, je crois, de faire un effort, et ça c'est une hésitation, ça c'est un politique congolais. Il n'est pas assez intéressant de faire des assimilations, que là où il y a les Hutus, il y a effectivement les FDLR, et que là où il y a les Tutsis, il y a effectivement les CNDP. Ça, ce sont des petites erreurs. Il est important de mettre de côté. Je reviens ici à un plan qu'a présenté très bien le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. C'est le plan qu'il a présenté aux membres du Conseil de sécurité pendant leur dernier séjour à l'RDC. Il invite effectivement le peuple congolais, et là je crois que nous avons le devoir d'en faire une large diffusion, à ne pas considérer dans leurs différents discours que là où on trouve le Hutu ou le Tutsi, que nécessairement ils doivent être de mèche avec les groupes armés. Ainsi, par exemple, pour ce qui concerne Rutshuru, penser que les populations de Rutshuru seraient d'office FDLR, parce qu'on y voit une grande majorité de Hutu, serait vraiment une idée qui nous amènerait à des situations catastrophiques. Il est beaucoup plus intéressant de ne pas assimiler des groupes ethniques à des groupes armés et considérer qu'il y a des groupes armés, bien sûr, qui existent, qui ne refusent pas, mais de les assimiler aux ethnies, ce n'est pas une situation intéressante. Je préfère que le sénateur Moïse Nyarugabo puisse corriger sa considération par rapport à cette affirmation.
Ouais.
En ce qui concerne la situation des missiles,
on va vous donner une minute. Oui, allez-y.
Je pense que là, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. Le sénateur Moïse Nyarugabo parle d'un accord qui serait intervenu entre le gouvernement et le groupe du CNDP, ce qui est vrai parce qu'autrement, on n'aurait rien fait sans accord. Mais ce qu'il faut également noter, c'est que même les partis à cet accord, essentiellement le gouvernement d'une part et le CNDP d'autre part, ont eu à dénoncer les faiblesses de l'opération de mixage. Alors cela nous place, nous qui sommes étrangers à ces accords, dans des situations de difficulté de pouvoir réellement émettre des points de vue de valeur par rapport à cela. Parce que déjà les propres signataires ont eu à dire que ce n'était pas suffisamment bien, que de part et d'autre, on n'a pas exécuté ce qu'on devait faire. Nous pensons que c'est un point de parcours de l'histoire de notre pays. C'est ce que moi j'appelle la transition militaire. On a vécu une transition politique qui a eu des élections, qui a eu des prolongations des processus, mais on est arrivé en fin de compte à un contexte unique, un cadre uniforme de gestion du pays sur le plan politique. sur le plan militaire, il faut également accepter qu'il y ait quelques tâtonnements. Et parmi les tâtonnements, il faut noter également le processus de mixage et peut-être même celui de brassage. Mais tout doit nous conduire, et là, je reviens en bonne ligne par rapport à ce que disait le sénateur Nyarugabo, tout doit nous conduire vers l'intégration, vers l'unification de l'armée.
Oui.
Voilà le prix de la paix de demain.
Merci,
et moi, je crois qu'il faut inviter la classe politique à voir davantage l'avenir, parce que le passé, nous y avons chacun péché à sa manière.
Voilà, merci Gilbert, on va prendre...
Le peuple qui nous regarde attend de nous des actions responsables, des décisions souveraines, des décisions de grandeur pour qu'on aille vers une paix, on aille vers une armée unifiée, on aille vers un Congo nouveau et fort.
Voilà, merci Gilbert.
Gilbert,
voilà, puisque vous parlez du peuple, on va justement avoir quelques opinions des auditeurs avec Kelly Kouté. Vous allez réagir tout à l'heure, Moïse Nyarugabo. Oui, Kelly, écoutez.
Florie de Goma, au Nord Kivu, estime que cette déclaration n'est pas la première. Pour nous, ce qui est important, c'est que le gouvernement puisse faire tout son possible pour que la sécurité revienne dans le Kivu. Papi Kanalina Isiro, dans la province orientale, pense que le Conseil de sécurité prêche dans les déserts, qu'il entendra lorsque le gouvernement et la MONUC ont failli à leur mission de restaurer la paix dans cette partie du pays. Mouindo de Goma, au Nord Kivu, demande pourquoi le sénateur Nyarugabo défend-il les rebelles alors qu'ils tuent et pillent la population Nord Kivu. Enfin, Mbuta de Kindu dans le Maniema veut savoir pourquoi l'État congolais doit toujours compter sur l'ONU pour résoudre les problèmes sécuritaires dans le Kivu. Où est le sens et responsabilité de nos gouvernants?
Merci. On commence par Claudel Loubaya, député national PPRD. Claudel, votre réaction après tout ce que vous venez de suivre sur le mixage et le point de vue de Moïse Nyarugabo.
Merci, j'ai suivi tout ce qu'a dit l'honorable Moïse Nyarugabo, notamment en ce qui concerne le mixage. Quand il a dit que le gouvernement devait pas nécessairement aller beaucoup plus loin, il devait tenir aussi compte des réalités locales. Mais il n'a pas très bien précisé quelles sont ces réalités locales. Est-ce que ces réalités locales seraient-elles que certains éléments de l'armée embrassés soient simplement mixés et gardés sur place, sinon le brassage n'aurait pas son sens. Il faudra impérativement que les troupes brassées, les troupes appelées au brassage, être déplacées du lieu de leur recrutement où elles ont continué à évoluer et où elles ont eu une mauvaise idée de diminuer l'image de sécurité, l'image de terrorisme et qu'on sort. Donc à ce niveau-là, je pense que l'honorable président Nyarugabo devra comprendre qu'absolument, même si le gouvernement devait tenir compte des réalités locales, ces réalités locales-là, elles devront aussi être celles qui conduisent le gouvernement à déplacer de leur milieu d'origine les troupes brassées, même si au départ elles ont été mixées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous ne disons pas que le mixage était mauvais.
Oui, allez-y rapidement parce qu'on tend vers la fin de cette émission.
Oui, nous ne disons pas que le mixage en soi était mauvais. Non, le mixage a permis simplement d'arrêter le combat précédent, mais le mixage a simplement entretenu au sein de l'armée une armée insoumise et indisciplinée sous le commandement d'un homme. Nous n'oublions pas, je pense, l'honorable Moïse n'oublie pas, que Laurent Kunda est le seul militaire qui dirige un parti politique, le CNDP. Alors que la Constitution interdit aux militaires de créer une activité politique. Et donc, on ne peut pas accepter ça. Donc, nous, au niveau de l'Assemblée nationale...
Oui, concluez, parce qu'on est presque à la fin, parce qu'il faut, que Moïse Nyarugabo vous réponde en une minute. Concluez, Claude Loubaya.
C'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous encourageons le gouvernement à prendre un train de mesure et aller jusqu'au bout de sa politique pour arriver à doter le Congo d'une armée réellement unifiée, d'une armée réellement républicaine qui soit au service de la nation congolaise.
Merci beaucoup, Claude Loubaya. Oui, vous avez une minute, sénateur.
Je veux dire ceci à Gilbert Kalinda. Là où il y a des Hutu, il y a FDLR. Là où il y a Tutsi, il y a CNDP. Je ne l'ai jamais dit. Ce n'est pas venu de moi. Je n'ai pas prononcé. Je n'y ai même pas pensé. C'est venu de lui. Éviter la globalisation, je ne suis que demandeur, car j'en suis victime. Je suis heureux d'entendre Kalinda dire qu'il ne faut pas assimiler les populations aux groupes armés. Donc, je ne peux qu'encourager ça. Deuxième chose, au sujet de Nkunda et tous les autres groupes armés. Moi, ce que je dis, c'est que le gouvernement doit assumer ses actes.
Oui,
il doit
assumer ses décisions.
Je ne suis pas en train de défendre ni les uns ni les autres. Je parle des principes. L'option que le gouvernement a, il doit aller jusqu'au bout et assumer, mais aussi respecter les principes qui sous-tendent son option.
Merci beaucoup, sénateur Moïse Nyarugabo. Merci à tous nos invités. C'est la fin de ce dialogue entre Congolais, une émission préparée par Kevin Kouté, Sylvain Baougouré était à la technique, Nadine Foula l'a réalisée. Bonne suite de programme sur Radio Kapi.